Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir à tous, merci de votre présence à l'écoute du débat sur RFI. Sous la direction de Viktor Orban, la Hongrie prône des valeurs que l'Union européenne a du mal à accepter. Le traitement des réfugiés, la perspective de rétablir la peine de mort, les manquements à la liberté de la presse donnent le ton des orientations que le Premier ministre hongrois veut donner à son pays. L'Europe réagit, menace, sans parvenir pour autant à infléchir la politique autoritaire qui prévaut en Hongrie. Cette situation peut-elle mener à une rupture avec l'Union européenne ? La Hongrie de Viktor Orban est-elle compatible avec l'UE ? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Paul Gradvol est historien et spécialiste de l'Europe centrale et de la Hongrie. Il a contribué au dossier Colère de la revue Esprit de mars-avril 2016. Bonsoir à vous, Paul Gradvol.
Bonsoir.
Et puis Joseph Krulik est juriste, président de l'Association française des juges de l'asile, l'AFJA. Et vous êtes, vous, l'auteur d'un dossier paru dans la revue Après-demain sur le droit d'asile en Europe. Bonsoir à vous, Joseph Krulik.
Oui, bonsoir.
Alors, un référendum sur les réfugiés qui se déroule ce dimanche 2 octobre. La question qui est posée aux Hongrois est la suivante. Voulez-vous que l'Union européenne puisse décréter une relocalisation obligatoire de citoyens non hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois ? Alors, les citoyens non hongrois, ce sont les réfugiés, hein, si j'ai bien compris. La relocalisation obligatoire, c'est cette demande européenne d'accueil et de répartition de ces réfugiés dans les différents pays de l'Union. Manifestement, le gouvernement hongrois ne veut pas de ces quotas et sollicite l'aval de la population pour dire non. Hein, Joseph Krulik, c'est un petit peu le sens de la question.
Oui, il faut préciser. La relocalisation, il y a des décisions qui étaient des décisions qui le sont devenues moins après le sommet de Bratislava, où il y a eu un retrait, plus ou moins, était une décision du Conseil européen en septembre 2015 et même, disons, avec une esquisse en avril 2015, qu'il faudra distinguer d'ailleurs il s'agit de répartir des demandeurs d'asile déjà arrivés dans l'Union européenne et non pas, il y a une autre mesure qui a un terme un peu différent, de ceux qui seraient en Turquie, en Jordanie et qui seraient autorisés sous un certain régime, par exemple l'accord franco-turc du 18 mars dernier, 2016, à venir avec un plafond de 72 000 pour ce qui concerne cet accord Union européenne-Turquie sur le territoire de l'Union européenne, sur dossier en quelque sorte, je simplifie. Donc la relocalisation, c'est des gens qui sont déjà en Allemagne, en Suède, éventuellement en Italie par exemple, et qui seraient pour un quota ou pour tel pourcentage ou tel nombre, par exemple 2200 en Croatie, 20 000, 30 000 ou autres en Hongrie, amenés à être relocalisés au sein de l'Union européenne.
Et ça, Viktor Orban n'en veut pas. Paul Gradvol.
Attention, le nombre de gens concernés pour la Hongrie, par cette mesure, est très faible.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est pas du tout 20 000 ou 30 000.
Non, c'est...
On est à peu près à 3 000.
Oui, c'est un chiffre modeste. Donc la Croatie, j'ai dit que c'est de 2200, pardon.
Voilà, et je crois que la Hongrie, c'est moins.
Oui, pour la relocalisation. Non, ce qui me faisait, sinon tromper, du moins un peu dévier, c'est que il est vrai que la Hongrie, il faut quand même pas le, c'est pas traite en réalité quand même plus de 60 000 et voire beaucoup, voire un peu plus, demandes d'asile à l'heure actuelle dans son circuit. Ils sont déjà en Hongrie.
Bon, et c'est ça la raison de la mauvaise humeur du gouvernement Orban et cette envie finalement de s'éloigner de la nécessité d'accueillir de nouveaux réfugiés. Qu'est-ce qui provoque, alors je vous pose la question à vous Paul Gradvol, puisque vous êtes un spécialiste de ce pays, qu'est-ce qui provoque cette vague populiste de la part des autorités hongroises ?
Alors, la question est compliquée parce que les autorités peuvent créer une vague, mais en elles-mêmes, elles ne sont pas une vague.
D'accord.
Donc, l'idée, c'est qu'on a un gouvernement qui demande à la population, avec des méthodes de ce qu'on appelait dans l'ancien temps l'agitprop, pour vous donner un exemple, il y a des mairies qui, aujourd'hui, vont voir leurs citoyens en disant « il faut voter, parce que sinon, nous n'aurons pas de subvention l'année prochaine du budget de l'État ». Donc, tous les moyens possibles et imaginables sont employés. Et en fait, de vague, Orban lui-même a reconnu cette semaine qu'il n'était pas sûr que la participation atteindrait les 50% qui feraient que ce référendum ait un vague sens. Je rappelle que pour l'Union européenne, c'est juste un référendum indicatif et qui n'a aucun sens juridique. Donc, nous sommes dans cette affaire sur une agitation qui concerne à peine quelques milliers de personnes dans un pays qui en compte 10 millions. Donc, c'est un référendum qui n'a aucun sens si on considère seulement la question posée, parce que ça ne mérite pas de mobiliser les centaines de millions de monnaie locale, c'est-à-dire des dizaines ou des centaines de millions d'euros qui ont été pensés par le gouvernement pour cette affaire. Ça n'a aucun sens en termes économiques. Ça n'a du sens que politiquement pour mobiliser la population de la part d'un gouvernement qui a besoin d'être populiste pour des raisons très simples. Il y a de très lourdes affaires de corruption qui pèsent sur lui, y compris du point de vue de l'Union européenne. Les fonds européens assurent la croissance de la Hongrie. S'il n'y a plus de fonds européens, la Hongrie est en crise économique directement. Et donc, le gouvernement Orbán agit comme M. Orbán le fait d'habitude, par des coups de force et des coups de gueule.
Ça, c'est les autorités. La question que je me posais aussi, c'est de savoir si la société est dans un état d'esprit similaire.
Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les sondages donnent entre 42 et 50% de gens qui veulent participer. Et là-dessus, la grande majorité, plus de 80%, voterait non, comme ce que demande le gouvernement. Ce qui veut dire que même s'il y a un mouvement d'opinion, très largement favorisé par une propagande extrêmement massive, c'est un mouvement qui n'emporte pas réellement toute la société hongroise, qui est plutôt marquée par ce que votre reportage signalait juste avant notre débat, qui est une forme de désespoir. Parce que quelle image du pays est-ce que ça peut donner que d'avoir peur, je crois, de 1500 personnes en fait, et qui sont censées, c'est un des arguments essentiels de la campagne du gouvernement, c'est « femmes, cachez-vous, ils vont venir vous violer. Chrétiens, ayez peur, demain, votre église sera remplacée par une mosquée. » Donc, la nature des slogans employés laisse croire que la Hongrie et les Hongrois et la culture hongroise sont dans un état de dérédiction, de faiblesse, d'épuisement absolument incroyable, ce qui est le contraire du message officiel.
D'accord. D'autant plus qu'il faut souligner que le sommet de l'Union européenne, enfin le Conseil européen du début septembre, 7, 8, 9, si je me trompe, septembre, dans son communiqué, si vous le relisez, qu'un cas avec les circonvolutions de ce vocabulaire a plus ou moins renoncé à imposer la relocalisation. Oui. Donc, du point de vue purement technique, c'est-à-dire relocalisation des réfugiés, ce référendum est sans objet. C'est un non-lieu, comme diraient les juristes. Mais ce non-lieu a lieu pour des raisons effectivement d'agitation du système politique interne.
Alors, je m'adresse encore au juge. Quelle est la part de responsabilité de l'Europe dans ce contentieux qui laisse finalement les pays aux avant-postes se débrouiller seuls face à l'arrivée des migrants ?
Vaste et importante question. alors, il faut rappeler le B.A.B.A. Vous avez ce qu'on appelle un règlement Dublin 3 depuis le 1er. Mais c'est la troisième mouture du texte depuis 26 ans, depuis le 1er janvier 2014, qui en gros dit, mais il n'est pas appliqué, l'Allemagne a considéré qu'elle ne pouvait pas, il fallait la mettre entre parenthèses pour quelque temps, que le premier pays où arrive le demandeur d'asile est le pays qui traite le dossier. Alors ça veut dire en gros que la Grèce aurait presque toute la demande européenne avec l'Italie, et la Hongrie est un peu... C'est vrai que ceux qui contournent la Grèce, ou qui ne sont pas enregistrés, c'est le point important en Grèce, arrivent éventuellement à la frontière, par exemple, serbo-hongroise. Et s'ils arrivent en Hongrie, il est vrai que normalement, dans ce cas, la Hongrie a à traiter le dossier. Ce qui fait que malgré tout, il faut nuancer les réalités complexes, la Hongrie a malgré tout, l'an dernier, a traité 70 000 cas, ce qui est beaucoup, pour le coup, c'est beaucoup. Bon, plus ou moins bien, mais il l'a traité.
C'est une réalité auquel ces pays doivent faire face, l'afflux des réfugiés, et la Hongrie en particulier, Paul Gradvol.
Alors, jusque-là, tout est clair. Maintenant, il faut introduire une petite nuance qui est qu'en réalité, ce qui s'est passé l'année dernière, qui est, elle, le moment clé de toute cette affaire, l'été dernier, il y a un peu plus d'un an, c'est que au moment où passent par la frontière hongroise des dizaines, voire des centaines de milliers de réfugiés, qui n'ont pas le temps d'être enregistrés d'ailleurs, comme l'a dit Joseph Krulik, l'Allemagne et même l'Autriche n'appliquent pas Dublin 3. Donc, il suffit de les laisser passer et ils sont pris en charge par l'Allemagne notamment, même si ce n'est pas le premier pays européen où ils arrivent. Donc la crise qui s'est produite en Hongrie à ce moment-là est largement due au fait que les autorités hongroises ont fait semblant de vouloir respecter Dublin III, alors qu'elles savaient que ça n'avait aucun sens. Et il y a eu un rapport d'une ONG qui est sorti il y a 15 jours, qui fait le bilan technique des opérations qui ont été menées et par la police et par le gouvernement pour monter en épingle cette affaire, qui au départ ne posait qu'un problème de transit de personnes à organiser. C'est-à-dire qu'il fallait utiliser des cars, utiliser des trains et laisser des gens passer de la frontière serbe à la frontière autrichienne. Et ça, ça a été bloqué volontairement, déjà dans un but d'instrumentalisation politique.
En précisant un peu la chronologie, vous savez, en réalité, le 4 septembre 2015, Angela Merkel, en gros, ouvre les portes de l'Allemagne. Le 19 octobre 2015, le système hongrois devient à peu près étanche avec la Serbie. Et dans une certaine mesure, la Croatie, mais la Croatie dans l'Union européenne, ça pose d'autres problèmes juridico-techniques. Et donc, le but affirmé du gouvernement hongrois, disons en août-septembre, avec diffusion d'ailleurs de courriers au printemps 2015 sur le danger que représente à tous les Hongrois, hein, courrier généralisé que représentait la vague qui était en train d'arriver, ça a été, en gros, ils ont bloqué techniquement, c'est vrai, dès le 19 octobre 2015, et la route des Balkans, techniquement, est passée, en tout cas, en tout état de cause, hein, entre le 19 octobre 2015 et le 18 mars 2016, date de l'accord UE-Turquie, qui est fondamental, puisque ça a tari la source, à peu près, par rapport à cette route, en tout cas, je ne parle pas de la route de l'Italie. Et donc, résultat des courses, effectivement, pendant ces 6 mois, en gros, 19 octobre 2015, 18 mars 2016, la Hongrie n'a plus été la voie de passage de ce qui était la route des Balkans qui passait par Serbie, Croatie, Slovénie, Autriche, à Munich, etc. Et donc, si vous voulez, depuis un an, en gros, je simplifie, la Hongrie contrôle ses frontières. Par quels moyens et avec quelle compatibilité avec le droit de l'Union européenne, d'accord, on peut en discuter, mais au moins il faut le dire.
Mais ce qui n'empêche pas Orban de proposer ce référendum. Une précision, Paul Gradvol.
Oui, juste un dernier point. Ce qui arrive aussi, c'est que les réfugiés qui arrivent en Hongrie sont extrêmement rarement demandeurs à rester sur place.
Oui.
Ça vexe même une partie des Hongrois qui ont proposé de les accueillir, parce que les Hongrois ne sont pas tous d'odieux xénophobes. Et moi, je me souviens très bien, notamment de prêtres, qui avaient courageusement, parce que la hiérarchie catholique vit des avantages divers que lui donne Orban, donc, mais il y a des prêtres qui ont vraiment fait un effort pour accueillir des réfugiés, mais qui étaient quand même un peu désespérés par le fait que, manifestement, leur horizon allait au-delà de la Hongrie. Et qu'il souhaitait aller plus loin.
Et voyons la Hongrie au-delà de la question des réfugiés et du traitement que Viktor Orban leur impose. Parce que finalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'une certaine manière. La Hongrie, c'est aussi, on en parle, la possibilité de rétablir la peine de mort, de limiter la liberté de la presse, Joseph Krulik.
Oui, alors ces points seraient... effectivement une rupture avec l'actuel état du droit et du fait même européen, de l'Union européenne ou même du continent européen, à l'exception peut-être de la Russie qui flotte un peu sur ces questions et la Biélorussie. Mais attention, la peine de mort rétablie, ça serait une rupture non seulement avec l'Union européenne, mais avec le Conseil de l'Europe. Vous savez que c'est le protocole numéro 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire l'institution de Strasbourg, qui regroupe 47 pays, Asie centrale inclus, qui a interdit en gros la peine de mort.
Donc ça, c'est même pas envisageable dans le cadre de l'Union européenne.
Par ailleurs, pas l'Union européenne, non, effectivement, ça serait une rupture. Alors, il faut rappeler aussi que l'Union européenne, c'est ça qui a été défini par 3 points au sommet de Copenhague de juin, Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement, et qui normalement devraient servir de boussole durable.
C'était juin 93.
33, oui, pardon. Juin 93. Donc, les 3 principes de Copenhague, c'est-à-dire économie de marché qui fonctionne, comme économie de marché, démocratie pluraliste qui fonctionne comme démocratie pluraliste, donc, et surtout état de droit qui respecte les principes d'état de droit au sens technique et allemand du mot, c'est-à-dire hiérarchie des normes, dont internationales et constitutionnelles, Et donc, normalement, c'est là, pour le coup, c'est le troisième point qui est problématique. Oui.
Alors justement, je me tourne vers vous, Paul Gradvol. La rupture est d'autant plus étonnante, finalement, qu'elle n'est pas économique. On parlait des lois du marché. La Hongrie ne pesait pas vraiment lourd quand lors de son admission dans l'Union. La rupture est politique, c'est clair. Et ça semble grave. Ce sont les valeurs de l'Europe qui semblent remises en cause.
Les valeurs de l'Europe sont malheureusement remises en cause en beaucoup d'endroits. Mmh. Puisque là, on parlait des réfugiés, mais souvenez-vous, les Danois, qui ne sont pas vraiment des Européens de l'Est, ont proposé des mesures de spoliation des réfugiés donc qu'on privait de leurs biens personnels, y compris de leur alliance, pour pouvoir payer leur séjour au Danemark, ce que les Hongrois n'ont pas encore fait. Donc il y a une tendance assez générale, et on le voit aussi en France, à avoir des discours contre la menace venue de l'extérieur et personnifiée par des réfugiés, qui est général. Et en Hongrie, Monsieur Orban joue sur des sentiments qu'il contribue lui-même à développer, tout simplement parce que je pense qu'on est dans une Europe où, très souvent, la démocratie commence à s'épuiser.
Ouais.
Les élites ne voit pas vraiment que proposer. Et donc, le choix de Monsieur Orban pour rester au pouvoir, c'est par exemple de s'appuyer sur Vladimir Poutine.
Oui. Alors, il faut souligner qu'il est le seul, Orban est le seul à expliciter les fondements implicitement théoriques de ce comportement, la démocratie illibérale. C'est justement, alors il y aurait beaucoup à dire, en tout cas, qui exclut par exemple l'état de droit. En réalité, par rapport à la déclaration de Copenhague 93, il est en rupture. Il est en rupture avec ce qui est normalement la charte, la Bible, enfin les saints sacrements, diraient certains, de l'Union européenne telle qu'elle a été définie après la chute du mur et après notamment l'effondrement du régime hongrois en 89, et quel communiste hongrois, qui était, tout le monde croyait, y compris moi qui ai beaucoup, malgré tout, visité beaucoup la Hongrie avant 1989 ou avant 90 ou dans la période 1990-92, et je me souviens de Hongrois, notamment de Fidesz à la frontière slovaque, qui s'affirmait libéraux au sens de Tocqueville, au sens de attachement aux libertés, à la séparation des pouvoirs et à l'état de droit, en tout cas au respect du droit, si vous voulez. Mais parce que le concept d'état de droit est en fait très allemand, les Français ne le comprennent pas forcément très bien. Et donc, résultat des courses, effectivement, là, il y a rupture pratique et théorique. Orban et les Hongrois théorisent que Poutine pratique un peu beaucoup, et il le pratique un peu, mais il le théorise de toute façon, et ils prétendent définir un nouvel norme qui serait... qui, cette fois-ci, après la vague de démocratie libérale après la chute du mur et les 10 années qui ont suivi, peu ou prou, il y aurait la vague illibérale de la démocratie qui retirerait au moins aux 3 piliers européens de Copenhague l'état de droit, en partie la démocratie politique, en partie, c'est-à-dire que ça serait peut-être très gouverné. Bon, un parti dominant et puis les autres, on essaie de faire qu'ils dominent pas trop, enfin qu'ils se manifestent pas trop, et que la presse ou et les cours constitutionnels soient en réalité contrôlés. Et là, c'est la fin de l'état de droit, par exemple, ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle.
Bon, on ne va pas pouvoir en dire plus, malheureusement, parce qu'il est pratiquement l'heure de nous quitter. Que disent les sondages à propos de ce référendum et quel est votre pronostic à vous, Paul Gradvol?
Alors, les sondages, comme le dit, posent d'abord la question de la participation. Parce que la principale question, c'est de savoir si on passe le seuil de 50, ouais. À ce moment-là, c'est une vague validité ou pas. Et Orban, lui, semble-t-il, a des sondages que nous n'avons pas complètement et a l'air de miser sur le fait que les 50% ne seront pas atteints. Parmi les gens qui vont voter, il y a au moins 80% qui vont voter pour le non, c'est-à-dire la demande du gouvernement, refuser l'horrible pression européenne, pour reprendre un peu l'esprit local. Pour le reste... je pense qu'il faut attendre. Moi, je n'ai pas de pronostic. Je pense qu'effectivement, on risque d'être en dessous de 50%. Malgré les pressions qui se font jour ces dernières heures et qui excèdent largement toute norme d'état de droit évoquée par mon collègue Joseph Krulik.
Bon, allez, on n'en dira pas plus ce soir. Rendez-vous dimanche soir ou lundi matin pour voir ce que disent les Hongrois. Merci à tous les deux. Paul Gradvol, historien, spécialiste de l'Europe centrale et de la Hongrie, et Joseph Krulik, juriste, président de l'Association française des juges de l'asile. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission, à Fabrice Viollet qui l'a réalisée. Vous la retrouvez comme d'habitude sur notre site internet rfi.fr lundi. Anne Souhaitemont et ses invités. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur Radio France Internationale dans quelques petites secondes.